Bonjour à tous. Une vaste enquête du Congrès juif mondial pointe l'inaction des réseaux sociaux face au contenu antisémite. Le bras de fer entre Washington et Téhéran continue. Donald Trump revendique le contrôle du détroit d'Ormuz. Téhéran menace de faire durer la guerre jusqu'en 2023.
Les soldats indonésiens, britanniques, suisses et italiens au sud Liban, Israël dément. En visite au sud Liban, justement, le ministre de la Défense Israël Katz assure que l'État hébreu se maintiendra dans la zone de sécurité contrôlée par Tsahal. Cette enquête du Congrès juif mondial pointe l'inaction des réseaux sociaux face au contenu antisémite.
Sur 754 publications recensées en Europe, entre février 2025 et avril 2026, 81% d'entre elles étaient encore accessibles en mai 2026, y compris des appels au meurtre et des messages de Daesh encourageant des attaques contre des synagogues. Pire, les signalements semblent presque inutiles. Moins de 20% des contenus dénoncés ont été retirés. TikTok obtient le meilleur résultat avec 64% de suppression. À l'inverse, Facebook, malgré de nombreux signalements, n'a supprimé que 13,9% des messages concernés. Les contenus antisémites liés à Israël sont encore moins sanctionnés. Seuls 5,2% d'entre eux ont disparu. Aucune des 28 publications comparant la politique israélienne au nazisme n'avait été retirée. Face à ce constat, le Congrès juif mondial réclame une application beaucoup plus stricte, notamment du Digital Service Act, pour contraindre les réseaux sociaux à agir. C'est pour ça qu'on vous parle de cela dans la question du jour pour demain. Peut-on forcer les plateformes de réseaux sociaux à supprimer les contenus antisémites? C'est ce qu'on vous demande et on en traitera avec notre invité demain matin à 8h45.
L'Anti-Defamation League alerte sur une forme d'antisémitisme moins visible dans les universités américaines, celle qui s'installe directement dans les salles de cours et au sein du corps enseignant.
Selon deux nouveaux rapports de l'organisation américaine, certains programmes présenteraient des positions très hostiles à Israël comme des faits incontestables. Des textes écrits par des responsables d'organisations terroristes seraient parfois proposés aux étudiants et des professeurs auraient accordé des points supplémentaires pour la participation à des rassemblements anti-israéliens. Des étudiants juifs ou israéliens ont également été pris à partie et sommés de répondre personnellement de la politique d'Israël. L'ADL dénonce par ailleurs des réseaux d'enseignants accusés de soutenir les mouvements anti-israéliens et le boycott d'Israël et même de protéger des militants pro-palestiniens contre des sanctions disciplinaires. L'organisation a lancé un dispositif confidentiel pour permettre aux victimes de parler. Il est baptisé Campus Classroom Reporting et étudiants, professeurs et membres du personnel pourront y signaler les propos, les cours ou les comportements jugés antisémites. L'ADL a pour analyse que si les campements, les grandes manifestations anti-israéliennes ont reculé sur les campus, l'hostilité envers les étudiants juifs n'a pas disparu, elle s'est juste déplacée derrière les portes des amphithéâtres.
Les États-Unis ont le contrôle total du détroit d'Ormuz. Je pense que nous allons le conserver, a écrit Donald Trump sur Truth Social, qualifiant le dispositif naval américain de mur d'acier, je cite.
Il a assuré que l'Iran n'était plus en mesure de s'y opposer, dressant un tableau sombre des capacités militaires iraniennes et de la situation économique de la République islamique. Il a affirmé que les États-Unis comptaient maintenir leur blocus naval des ports iraniens, signe supplémentaire des difficultés dans les négociations avec Téhéran.
Un haut responsable des gardiens de la Révolution affirme de son côté que l'Iran pourrait chercher à prolonger la guerre avec les États-Unis jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump en 2029.
Oui, c'est la stratégie qui a été annoncée par Mohamed Reza Naqdio, conseiller du commandant des gardiens de la Révolution islamique. Il a exposé cela dans une interview à PBS et assuré que leur vœu était de faire une guerre d'usure pour faire comprendre à Washington que toute attaque contre l'Iran entraîne un coût assez important pour décourager toute future administration américaine de les lancer. Ancien coordinateur adjoint des gardiens de la Révolution entre 2019 et 2025, Mohamed Reza Naqdi a également revendiqué une victoire iranienne dans ce conflit et estimé que les capacités militaires américaines s'étaient révélées inférieures aux attentes de Téhéran. Au cours de ces 5 mois, nous avons appris comment combattre l'Amérique, a-t-il assuré.
Cette surenchère intervient alors que les efforts visant à rétablir l'accord intérimaire entre Washington et Téhéran restent dans l'impasse.
Un haut responsable iranien a déclaré hier que les deux camps s'accusaient de ne pas respecter leurs engagements et qu'aucun progrès n'avait été réalisé. Le Pakistan, principal médiateur de ces négociations, demande à Donald Trump de baisser le ton et de laisser davantage de temps aux négociations. Pour l'instant, les divergences sont trop profondes. Washington et Téhéran restent très éloignés d'un accord. Et la bataille d'Hormuz n'est même pas encore réglée sur le terrain. Les données de suivi maritime annoncent 14 navires par jour environ, contre plus de 130 quotidiennement avant le conflit. L'Iran continue donc d'exercer une forte pression sur les compagnies maritimes avec ses menaces de drones et de missiles, même si la marine américaine tente de protéger les navires. Des soldats indonésiens, britanniques, suisses et italiens au sud Liban, Israël dément.
Selon l'agence de presse Reuters, Israël et le Liban se seraient mis d'accord sur la participation potentielle de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Suisse et de l'Indonésie à un mécanisme de déploiement de troupes étrangères au Liban, censé examiner le processus de désarmement du Hezbollah, selon des sources proches du dossier. Un accord obtenu lors des dernières discussions menées la semaine dernière du côté de Rome. Une information toutefois démentie par un haut responsable israélien en poste à Washington. Interrogé par la rédaction de Radio Judaïka Bruxelles, cette source israélienne proche de l'équipe de négociation de l'État hébreu affirme « C'est faux, aucun accord n'a été trouvé sur la composition de l'organisme chargé de superviser et de contrôler le travail de la protection civile dans les zones pilotes. Les négociations à ce sujet sont toujours en cours. »
Et en visite au sud Liban, le ministre de la Défense Israël Katz assure qu'Israël se maintiendra dans la zone de sécurité contrôlée par Tsahal.
Les forces de défense israéliennes resteront dans les zones de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza afin de protéger l'ensemble de l'État d'Israël. Comme le Premier ministre et moi-même l'avons clairement indiqué, nous ne nous retirerons pas de cette zone de sécurité, a déclaré le ministre de la Défense, qui s'édifie dans le même temps d'avoir ordonné la destruction de toutes les maisons dans certaines zones du sud Liban, et ce après s'être félicité le mois dernier d'avoir systématiquement rasé plusieurs dizaines de villages du sud du pays du Cèdre qui abritaient des infrastructures du Hezbollah.
Dans ce contexte, le Premier ministre libanais condamne justement, je cite, les destructions systématiques israéliennes dans le sud du pays.
Nawaf Salam a en outre déclaré que les attaques, incursions, démolitions et destructions systématiques de maisons, d'infrastructures, de bâtiments gouvernementaux et de lieux de culte par Israël constituent une grave violation des principes et des règles du droit international et du droit international humanitaire. Affirmer que les villages et les villes sont entièrement des installations militaires ne résiste à aucune logique et ne peut servir de prétexte pour les détruire, déplacer leurs habitants et les empêcher de revenir, a indiqué le Premier ministre libanais en réponse aux déclarations du ministre de la défense israélienne.
Et les déclarations d'Israël Katz ont également été critiquées par l'administration Trump.
Les États-Unis attendent de toutes les parties qu'elles agissent conformément au cadre qu'elles ont convenu, et Israël a clairement indiqué qu'il n'a aucune ambition territoriale au Liban, a déclaré un responsable du département d'État dans un communiqué qui a tenu à ajouter qu'une présence militaire permanente au sud Liban n'est pas compatible avec les engagements pris dans le cadre de l'accord ni avec la paix et la sécurité à long terme des deux États. Fin de citation.
Et le Parlement libanais amnistie les familles de l'armée sud-liban Tsahal.
Les familles qui avaient été soutenues par Tsahal durant la première guerre du Liban et qui avaient choisi de vivre en Israël par crainte de représailles du Hezbollah, les citoyens libanais qui ont fui en Israël après la libération du Sud en 2000, ainsi que leurs familles, bénéficieront définitivement de l'amnistie générale qui leur ouvre enfin la voie du retour dans leur patrie. Ils sont libanais et le Liban n'abandonne pas ses fils, a écrit sur X la députée Rana Rayoub du Parti chrétien des forces libanaises. Plus de 30 émeutiers palestiniens ont attaqué des juifs dans la ferme Mirne Abraham dans le Gouche Etzion. Deux habitants de la ferme ont été blessés et ont dû être transportés à l'hôpital.
L'incident aurait débuté à la suite d'un différend concernant une construction non autorisée située à proximité de la ferme. Selon les habitants israéliens, des bédouins auraient pris possession du bâtiment et coupé l'alimentation en eau des lieux. Les forces de Tsahal, la police et les gardes frontières dépêchés sur les lieux ont procédé à l'arrestation de 9 Palestiniens. Tsahal reprend ses opérations ciblées dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne a confirmé avoir mené hier une frappe aérienne contre un commandant du Hamas qui planifiait une attaque contre les troupes positionnées le long de la ligne jaune. L'attaque a eu lieu dans la région de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. La cible a été éliminée selon l'armée. L'identité du terroriste n'a pas été encore révélée. Tsahal a par ailleurs révélé avoir reçu des informations indiquant la tenue d'un exercice militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Un entraînement qui se serait déroulé dans la soirée de mardi. L'information a obligé l'armée israélienne à renforcer renforcer ses capacités de renseignement et d'attaque. Cependant, selon Tzahal, aucun agent terroriste lié à cet exercice n'a été identifié à ce stade.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse Israël de chercher à retirer la Palestine de l'agenda international.
L'objectif du gouvernement Netanyahou est d'écarter la Palestine de l'agenda commun de l'humanité en profitant du chaos et des nouveaux conflits dans la région, a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ajoutant « ils n'y parviendront pas », a ajouté donc le chef d'État d'Ankara. Washington reproche à Israël de ne pas agir suffisamment contre les violences commises par des habitants des implantations en Judée-Samarie.
Selon la chaîne publique CAN, qui cite un haut responsable de la Maison-Blanche, le sujet devrait être soulevé prochainement lors du cabinet de Benjamin Netanyahou. Les États-Unis attendent des explications sur les difficultés des forces israéliennes à mettre fin à ces attaques. L'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui est toujours d'habitude un grand soutien de l'État hébreu, a publié ce matin une déclaration extrêmement sévère sur X. Il a parlé, je cite, d'évacuer les terroristes israéliens qui commettent ces actes. Il a renchéri, leurs actes sont criminels et épouvantables. Destinés à effrayer et harceler des familles, ils sont écœurants et rien ne justifie un comportement aussi brutal. Fin de citation. Ces propos interviennent après de nouveaux incidents autour du village palestinien de Kousra. Des dizaines d'habitants juifs des implantations se sont opposés à l'armée israélienne qui avait été appelée à secourir deux familles palestiniennes bloquées dans leurs habitations. Là, l'organisation Yesh Din parle de routes et de clôtures obstruées et d'eau et d'électricité coupées. La zone autour de Kousra a été déclarée zone militaire fermée. Le chef d'état-major de Tzahal, Eyal Zamir, s'est rendu dans le secteur hier et a ordonné l'envoi d'un bataillon supplémentaire, placé des forces de réserve supplémentaires et demandé à l'ensemble des unités de Judée-Samarie de revoir leurs règles de conduite et d'usage de la force. On constate récemment une recrudescence des actes de violence commis par les extrémistes juifs à l'encontre des soldats de l'armée israélienne. Au sein de l'administration américaine, on s'inquiète et on parle d'une véritable impuissance des autorités israéliennes à faire respecter l'ordre. La colère se serait même étendue à des membres du Congrès. L'incident est jugé particulièrement embarrassant à la veille des mi-termes pour les soutiens traditionnels d'Israël au sein de l'administration Trump. La police viennoise et l'ensemble des services de sécurité israéliens sont toujours mobilisés pour retrouver la trace de Meli et Lielia Alomi, les deux Israéliennes disparues en Autriche.
Selon plusieurs sources du dossier, leur disparition ne serait pas liée à un incident d'ordre sécuritaire ou à un élément terroriste. Des informations confirmées d'ailleurs par la police viennoise, aucun élément ne laisse présager un acte criminel, affirment les forces de l'ordre de la capitale autrichienne. En Israël, les autorités cherchent à déterminer si la mère et la fille ont quitté volontairement l'Autriche en emportant une importante somme d'argent. Ces dernières heures, des indices ont également révélé que les données de géolocalisation de leur téléphone portable avaient été effacées. Le chef de la police israélienne, Dani Levy, a annoncé que l'enquête avait été transférée à l'unité LAV 433 anticriminalité. Ces dernières heures, les hôpitaux des environs ont également été contactés afin de vérifier si elles avaient été admises en tant que personnes non identifiées. Un représentant de la police israélienne se trouve désormais à Vienne et une cellule d'enquête spéciale est mise en place au ministère des Affaires étrangères pour recueillir des informations sur l'incident. La police israélienne vient par ailleurs d'imposer un ordre de censure sur l'ensemble de cette affaire. Donald Trump a annoncé mercredi sur son réseau social, Truth Social, que la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, quitterait ses fonctions à la fin du mois.
Officiellement, parce qu'elle vient d'avoir un deuxième enfant et afin de se consacrer à sa famille. Mais Caroline Leavitt, de son côté, a évoqué distinct, une décision douce, amère, même si elle se dit incroyablement reconnaissante envers le président américain et qu'elle assure qu'elle jouera un rôle de conseillère extérieure à l'avenir.
L'Eurovision modifie ses règles avant l'édition 2027 qui se déroulera en Bulgarie. L'une des nouvelles règles vise indirectement Israël.
La principale modification de ces règles, c'est que le pays vainqueur ne sera plus automatiquement autorisé à accueillir le concours l'année suivante si sa situation sécuritaire est jugée trop dangereuse. L'Union européenne de radio-télévision pourra demander une expertise indépendante lorsqu'un conflit armé ou une crise géopolitique menace la stabilité du pays ou de sa région. Dans ce cas, l'organisation sera confiée à un autre diffuseur. Israël n'est pas directement mentionné, mais cette nouvelle règle pourrait le concerner en cas de victoire, tout comme l'Ukraine ou n'importe quel autre pays engagé dans un conflit. Cette décision intervient après plusieurs éditions marquées par les controverses autour de la présence israélienne. Israël, qui a notamment terminé deuxième en 2026, porté une nouvelle fois par le vote du public. Deux autres changements sont prévus. L'âge minimum des candidats passera de 16 à 18 ans afin de mieux protéger les jeunes artistes. Et l'UER affirme vouloir également renforcer la sécurité, la transparence et l'intégrité du concours.
4 F-16 belges ont été déployés sur la base de Keflavik en Islande ce week-end dans le cadre d'une mission de surveillance aérienne de l'OTAN, selon le site spécialisé Avions Légendaires.
L'Islande, membre de l'OTAN mais dépourvue de forces aériennes, dépend de ses alliés de l'OTAN pour protéger son espace aérien. Les vols d'Icelandic Air Policing doivent permettre de repousser les avions russes qui s'approcheraient trop dangereusement de cette île de l'Atlantique Nord, à mi-chemin de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. Pendant un mois, une centaine de militaires belges et 4 avions participeront donc à cette opération. Les chasseurs belges assureront une permanence opérationnelle de jour comme de nuit. Ils devront être capables de décoller rapidement pour identifier si nécessaire intercepter tout appareil suspect s'approchant de cette zone. L'OTAN surveille particulièrement les avions militaires russes, notamment les appareils de reconnaissance et les bombardiers à long rayon d'action qui évoluent dans l'Atlantique Nord, mais aussi les drones légers qui peuvent venir gêner le trafic aérien dans cette région ô combien stratégique. Cette mission, organisée périodiquement depuis 2008, constitue le deuxième déploiement complet de chasseurs belges en Islande, après celui réalisé à l'été 2025. Les F-16 belges, progressivement remplacés par les nouveaux F-35, restent donc pleinement engagés dans les opérations de défense aérienne de l'Alliance transatlantique.
Et pour finir sur une note positive, hier soir, des millions de personnes ont admiré avec enthousiasme l'éclipse totale de soleil, la première visible en Europe occidentale depuis 27 ans.
Pendant quelques instants, le jour a laissé place au crépuscule au nord de Madrid. La phase de totalité a duré près d'une minute sous les applaudissements du public. C'était en Espagne où l'éclipse était la mieux visible. Et ce pays d'Europe estime qu'un 500 000 de touristes sont venus assister au spectacle. C'est dans un ciel pur et sans nuages que les Belges aussi ont pu admirer l'étrange spectacle de la Lune cachant petit à petit le soleil pour le faire disparaître à 90%, ne laissant qu'un fin croissant vers 20h13 hier soir. Pour beaucoup, mettre ses lunettes et observer l'astre solaire à travers ce filtre était une véritable découverte. Cette foutue éclipse m'a donné la chair de poule, confiée un Bruxellois à la Libre Belgique. On regardait tous dans la même direction, on échangeait, on était tous ensemble, c'est si rare, a-t-il conclu. Si vous avez raté cette éclipse, ou au contraire, si vous avez adoré la regarder, une bonne nouvelle, des éclipses totales seront également visibles au sud de l'Espagne, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Israël. Le 2 août 2027 pour mon anniversaire. Prévoyez vos vacances.